Au fil des saisons, notre assiette se colore, des saveurs reviennent quand d'autres nous quittent. Quel goût donneriez-vous à cet été 2022 et l'automne 2022? Quel goût aura-t-il s'il en a un? Quand certains vous répondent que de toute façon il n'y a plus de saison, comment savoir alors si ce légume est toujours de saison? À l'heure où le changement climatique chamboule les saisons, comment vivons-nous ces transitions annuelles? Pour cette prochaine conversation, nous vous laissons entre les mains de Nathalie Marteau. Bonjour.
Bonjour.
Anciennement directrice de la scène nationale de Marseille, vous ajoutez agri devant le mot culture pour changer de vocation et devenir enseignante dans un lycée agricole. Passer de la culture à l'agriculture, c'est aussi finalement vivre un changement de saison. La saisonnalité, vous l'aurez compris, c'est donc l'objet de ce dialogue que vous mènerez avec la journaliste culinaire et poète japonaise Ryoko Segiguchi. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Fille d'une cuisinière, vous partagez la passion des fourneaux autant que celle des livres de cuisine ou de la littérature. Ryoko Segiguchi, vous enseignez aujourd'hui à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Rappelons qu'en 1988, vous recevez le prix Cahier de la Poésie Contemporaine. Vos écrits nous plongent dans ce qui personnellement vous nourrit. En 2018, vous publiez Nagori, la nostalgie de la saison qui s'en va. Je vais m'arrêter là pour les présentations, puisqu'il est temps de passer à table à vos côtés.
Bonjour Nagori. Alors nous allons parler de saison, des saisons, de la saisonnalité. Avec votre ouvrage Nagori, vous avez donné le sous-titre « La nostalgie de la saison qui vient de nous quitter ». Alors, ce sous-titre, nous le comprenons grâce à ce mot « nagori » qui signifie en japonais « l'empreinte laissée par les vagues après qu'elles se soient retirées sur la plage ». C'est dire que nous n'allons pas seulement parler des produits de saison. Pour autant, dans cet ouvrage, tout part d'une phrase d'un chef au Japon que vous avez rencontré dans un bistrot. Alors, Ryoko, est-ce que cela signifie que la cuisine, l'alimentation sont pour vous comme un socle à partir duquel tout ou presque peut se décliner et se mettre en relation?
Bonjour. Oui, et ce n'est pas seulement pour moi, mais je pense que c'est pour tout le monde. Nous avons cette chance aussi de pouvoir, enfin de voir manger tous les jours, mais je dis cette chance parce que c'est le moment où on est le contact direct avec le monde qui nous entoure, parce que nous n'avons que les cinq sens pour ressentir et pour percevoir ce monde. Et bon, bien sûr, il y a plein de manières pour sentir ce monde. Là, nous sommes sous un arbre, en fait, nous ressentons le vent, il y a l'odeur qui nous vient. Mais je pense que l'acte de manger, c'est l'acte qui demande les cinq sens, parce que bien sûr, on regarde le plat, la cuisine, les ingrédients. On touche parfois pour faire la cuisine et on écoute parfois, par exemple, pour les bruits de cuisson, le bruit de couteau qui coupe, par exemple, une tomate. Et puis, bien sûr, on mange. Et après, on ne sait jamais si vous mangez avec quelqu'un, vous parlez de ce que vous êtes en train de manger. Et donc, c'est un acte qui est ultra riche et qui arrive à chacun d'entre nous, en fait, tous les jours. Et c'est dommage de rater cette occasion, non?
C'est sûr. Alors, la littérature comme la nourriture, semble être aussi première chez vous. Vous dites d'ailleurs, dans ce livre, Nagori, la sensibilité naît des mots. Alors, quel rapport, Ryoko, faites-vous entre la littérature et la nourriture?
Encore une fois, ce n'est pas seulement pour moi, mais je pense que les mets et les mots sont vraiment inséparables. On ne rend pas compte de ça, en fait. Et chaque fois que je dis que bon, la littérature et la cuisine, parfois, les gens sont surpris. Mais pour autant, par exemple, quand vous entrez dans un restaurant, qu'est-ce que vous faites? avant de commander un plat, vous lisez le menu. Et voilà, c'est un texte aussi, parce que c'est un message. Chacun a son grammaire pour écrire, pour décrire les plats qu'ils servent aussi. Et cela est pareil même quand vous êtes en voyage dans un autre pays. Parfois, vous comprenez pas la langue. Vous essayez de décortiquer pour savoir voilà, quel plat vous allez commander aussi. Et tout à l'heure, j'ai dit à Eric comment le mot change aussi la perception. Je donne un autre exemple cette fois-ci. Est-ce que vous connaissez le moti? Moti ou moti, enfin, à la prononciation à la française, j'entends souvent mochi, mais en japonais, c'est moti. C'est un mets, c'est une sorte de galette de riz qui peut être salée ou bien sucrée et qui est très tendre, qui est un peu en fait comme enfin, je ne veux pas dire justement gluant, parce que gluant a une connotation négative. Et pendant longtemps, ce mets, on disait que les Français n'aimaient pas parce que c'est gluant et ça colle. Et alors que là, en ce moment, il y a une sorte de vogue, de mode, de moti. Donc, il y a des maisons de moti, enfin, et tout nu par les Françaises, par exemple. Et vous entendrez les jeunes Français, Françaises, qui disent « Ah oui, j'aime le moti !» Et en fait, c'est parce qu'on a pu donner d'autres adjectifs, par exemple, on dit que c'est tendre, comme les joues d'un bébé. Voilà, c'est. En fait, il suffit de donner, par exemple, sur la même texture, sur le même goût, un autre mot, une autre expression, pour que notre sensation, pour que notre perception elle-même change. Et donc, c'est aussi pour ça. Donc, ce n'est pas la sensation qui vient d'abord, mais on est toujours en lien avec les mots qui le définissent.
Comme si les mots, c'était une porte qui s'ouvrait. Et oui. Si les mots changent, nos sensations, nos émotions, elles aussi, peuvent être différentes.
Voilà, tout à fait.
Alors, dans ce voyage qu'est Nagori, si poétique, je me suis, moi, personnellement, juste comme lectrice, je me suis sentie entraînée, alors, tantôt du côté de la nourriture, dans ce que ce mot, justement, a de plus cru, les produits, les plats, et tantôt du côté du subtil, ce que vous dites, au-delà même du gustatif, du côté même de nos émotions. Alors, quel rapport entretiennent ces deux aspects entre eux, selon vous ? C'est-à-dire l'aspect le plus cru, parler des plats, parler des produits, et puis parler de ce qui est subtil et de l'ordre de l'émotion.
Alors, je ne fais absolument pas... Enfin, encore une fois, ce n'est pas seulement moi, mais il faut jamais faire cette dichotomie de ce qui est cru et ce qui est... Enfin, parce que quand on, par exemple, quand on mange un plat et qu'on est ému, ça vient d'où ? Ça vient de ce plat-là. Ce n'est pas quelque chose qui est cru, qui est à l'opposé de l'émotion. Ils sont inséparables. Ce ne sont pas deux choses opposées. Et c'est pour ça que je dis que c'est une chance que nous avons de manger tous les jours. Nous avons aussi le droit de mal manger aussi, parfois. C'est-à-dire que parfois, les choses qu'on croit, trop simple ou bien trop banal, régressif. Mais parfois, notre corps, notre cœur aussi a besoin de ça. Et je pense que c'est dans ces va-et-vient qu'en fait, on noue toujours le lien avec, avec voilà, avec ce qui nous nourrit. Et je donne juste un exemple que donc après avoir écrit ce livre Nagoli, donc c'est la nostalgie de la saison donc qui vient de nous quitter. Donc non, je dis toujours voilà, donc c'est le dernier jus par exemple de des vacances d'été. Le lendemain, vous savez que vous allez prendre le train, voiture, et donc vous allez reprendre le boulot, et que bon, vous êtes un peu triste, vous regardez pour la dernière fois à la plage, donc le coucher de soleil, vous en êtes un peu nostalgique, mais vous dites bon, c'était pas si mal que ça, nos vacances d'été, et vous êtes un peu triste, mais pas tant que ça, parce que vous savez que tant que vous êtes vivant, ces vacances d'été, il va revenir. Et donc après la sortie de ce livre, j'ai reçu la lettre d'une productrice de légumes angevines qui me dit que alors je voudrais bien que vous goûtiez mes tomates. Je laisse une variété de tomates qui résiste au froid, et moi je n'arrache pas les pieds, et puis je laisse les fruits, les tomates sécher, et on était au mois de fin novembre, et j'ai dit bah oui, bien sûr, ça m'intéresse, et elle m'a envoyé ces tomates petites, comme les petits pois justement, et qui étaient tout ridées parce que qui étaient un peu séchées, mais le goût que cette tomate avait, mais de la taille de petits pois, le goût, elle avait le goût d'une grosse tomate, et ça m'a procuré justement une émotion, mais indescriptible, et depuis on est devenus amis, enfin à la fois avec les tomates et à la fois avec la productrice bien sûr, mais justement cette tomate pour moi elle n'est pas du tout, en fait ce n'est pas du tout les crues, l'émotion que c'était un énorme enseignement qu'elle m'a donné, donc en fait je pense qu'elles sont vraiment inséparables. Je n'arrête pas d'apprendre tous les jours par ces choses qu'on croit banales, mais non, pas du tout.
Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que la durée de vie des tomates est plus longue que celle qu'on croit. Quand on parle de la saison des tomates, on n'imagine pas que ça aille jusqu'au mois de novembre.
Parce que je pense qu'il faut bien admettre que la vie des agriculteurs est aussi très dur, comme on sait, et qu'il faut des rendements parfois, et que même pour les producteurs, par exemple bio, enfin je sais pas, enfin il faut parfois arracher les pieds pour planter autre chose, bien sûr, mais parfois quand on laisse les plantes vivre sa vie jusqu'à la fin, il y a des choses étonnantes qui a
des surprises.
La surprise. Et vous savez, Nagoli, ce n'est pas seulement, on n'en parle pas seulement de la fin de la saison, mais c'est aussi la fin de notre vie aussi, enfin la fin de notre vie qu'on croit parfois, donc justement que les gens parfois, les gens ont tendance à couper, qu'on croit que l'été est fini, donc la journée c'est fini, donc c'est la vie est finie. Ben non. La vie continue, autrement, et on peut regarder le coucher de soleil autrement, c'est aussi délicieux que ça. Et donc je pense qu'on peut faire aussi le parallèle, la saison, les tomates et nous.
Oui. Alors si beaucoup de choses peuvent se rattacher à la nourriture, et vous venez de l'introduire, Ryoko, il y en est une qui est dans le cœur de ce livre, Nagoli. C'est donc la question des saisons. Alors, j'ai envie de poser une question toute simple. La saison, les saisons, ça représente quoi pour vous ?
La saison, c'est l'émotion. La saison, c'est, enfin, justement, c'est, ça, ça rejoint à ce que je venais de dire. Sentir la saison, c'est ouvrir notre sensibilité le plus possible. Et c'est à ce moment-là que, qu'on comprend que, qu'il n'y a pas que quatre saisons. Tous les jours, on peut presque dire que tous les jours, tout moment, à chaque seconde, il y a une saison. Non ?
Bien sûr. Mmh. Bah, ce dont vous parlez, c'est de l'impermanence aussi. Chaque moment, c'est le deuil du précédent et c'est déjà le prochain. Et c'est vrai que dans ce livre, Nagori, vous parlez de ce rapport à la temporalité. Oui. Et de nous autres humains. Il y a un temps linéaire qui avance inexorablement vers notre propre mort. Et puis, en même temps, il y a ces saisons qui annoncent toujours un cycle qui revient et ce renouveau. Et c'est vrai que notre condition d'humain, c'est d'être peut-être entre ces deux temporalités, du renouveau permanent et en même temps de ce temps inexorable qui fait que nous vieillissons, que nous faisons le deuil du jour précédent et que nous allons, nous, contrairement aux saisons, vers quelque chose qui ne reviendra pas.
Oui, et mais en même temps, je pense que ce n'est pas aussi triste que ça. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que s'il n'y a pas de saison, je pense que ça peut être triste parce que voilà, donc il y a une temporalité linéaire. Bah, on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme dans un restaurant, on a mangé parfois l'entrée plat et puis on se dit ah oui, bah, l'entrée de l'autre, ça va être bon, mais on ne peut pas revenir en arrière. Mais les saisons, en fait, sentir les saisons. Sentir le saison qui revient, sentir le printemps, l'été qui revient, c'est ça qui ne, c'est vrai qui ne fait,
c'est une joie
et c'est notre salut aussi en fait, on peut dire une sorte de salut par rapport à l'entrée place dessert. L'autre jour, retourner au Japon après presque 3 années de l'intervalle à cause de pandémie et puis revoir mes parents, etc. Et puis je suis allée dans un restaurant italien tenu par un chef japonais que j'aime beaucoup. Et j'ai mangé bien. Et au moment de dessert, le chef qui se souvenait de mon commentaire sur les pâtes, parce que j'ai beaucoup aimé les pâtes que qu'il m'a préparées. Il a dit bon, est-ce que vous voulez le dessert ou est-ce que vous voulez revenir aux pâtes ? Et j'ai dit les pâtes. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fini mon repas. Et c'était, en fait, au-delà du fait que, bon, bien sûr, les pâtes qu'il préparait étaient extraordinaires, mais je pense que c'était la première fois que j'ai pu revenir en arrière au cours d'un repas. Et c'est libérateur, non ?
Bien sûr.
De déjouer avec le temps, c'est extraordinaire.
C'est ce qu'on peut faire, en effet, avec la nourriture.
Ah, bah oui, je pense
que. Et avec un repas.
Bah oui, je pense que quand vous invitez les amis, parfois, il faut faire ça, quoi. Donc, voilà.
Il faut oser.
Il faut oser. On peut revenir. On peut finir par l'entrée.
Ouais. Alors, on va peut-être parler d'un sujet un petit peu moins joyeux. Quoique, ce mot même de saison, évidemment, il nous fait penser à la question des conditions climatiques dans lesquelles nous sommes. La saison que nous venons de vivre cet été, par exemple. Et donc, on pense forcément au réchauffement climatique et à ses répercussions. Dans ce livre, Nagori, vous dites « La nature ne guérit pas de tout, surtout quand la catastrophe a été causée par les hommes. » Alors forcément, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que notre contexte nouveau change notre rapport à la nourriture ou va changer notre rapport à la nourriture ?
Bien sûr. Alors, il y a 12 choses. Quand souvent on dit voilà, il n'y a plus de saison, on peut à la fois penser que ça vient aussi de notre arrogance et de notre ignorance de penser que qu'il y a quatre saisons qui ne changent jamais et que voilà, en avril, il faut absolument qu'il fasse cette température-là, etc. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, bien sûr, le climat change tous les ans. Mais d'un autre côté, il y a aussi le dégât que nous causons donc, à la nature et qui fait que, qu'il y a ce changement climatique qui est... qui est parfois dur pour tout le monde. Et aussi, ce qui se passe, c'est que parfois, c'est ce que nous causons comme dégâts qui ne revient pas, mais qui, ce dégât va ailleurs, comme le cas de l'inondation en Asie, et qu'on ne se rend pas compte tant que qu'on ne reçoit pas ce dégât-là nous-mêmes. Donc, et cette fois-ci, enfin, cet été, par exemple, cet exemple de dernier jour de vacances d'été, bien sûr, je parle toujours comme pour expliquer le Nagoli. Mais comme vous avez vécu, cet été, il faisait tellement chaud, il n'y avait tellement pas d'eau que... nous avions presque assez d'été. En fait, nous voulions passer à autre chose, à l'automne, la fraîcheur. Et je pense que c'était quelque chose de nouveau. C'est vrai que c'est un peu triste. On ne peut plus avoir même pas le Nagoli parce que...
C'est-à-dire le Nagoli, la nostalgie de l'été.
La nostalgie de l'été n'existait plus à cause du changement climatique dû à l'humanité, en fait. Et une autre chose, c'est que souvent, bien sûr, quand il y a ce changement climatique, on dit qu'il faut faire avec, mais mes amis producteurs, productrices de légumes me disent qu'il y a la limite, en fait. Bon, bien sûr, vous pouvez dire qu'il faut faire avec, mais... À partir du moment où, comme cet été, où tout brûle et que arroser ne sauve rien, on est désespéré. Comment on peut faire avec les plantes qui meurent tous les matins c'est vrai que c'est pas qu'il faut faire avec et que c'est plutôt que nous devons faire quelque chose pour que le dégât reste, il faut faire avec et pas au-delà de ça. Quoi. Donc, c'est vrai que je ne peux pas donner la solution, mais je pense que c'est ce que la littérature peut faire et que j'essaie de faire à mon modeste niveau, c'est d'attirer l'attention, à porter toujours l'imagination à ce que les autres sentent. Donc cette sensibilité à la saison, il faut aussi imaginer à ce que, au Pakistan, les saisons, comment sont les saisons au Japon, comment sont les saisons en Argentine. Et aussi, en fait, c'est cette sensibilité. À la fois, ça apporte la joie à notre vie de tous les jours, mais aussi, ça apporte la conscience écologique. Et en fait, ces deux choses sont, encore une fois, inséparables.
Alors, ça pourrait être un peu le mot de la fin, ce que j'entends que vous dites, qui est quand même quelque chose d'un peu nouveau par rapport au discours dans lequel on baigne en ce moment, c'est qu'en fait, il ne faut pas faire avec. J'entends de votre part une forme de contestation. Il ne faut pas se contenter de dire « il faut faire avec », mais du coup, comme s'il y avait une alternative. Non, si on refuse de faire avec, alors peut-être peut-on faire quelque chose, et ça serait quoi ?
Vous savez, les gens qui veulent dire qu'il faut faire avec, c'est des gens qu'il faut faire avec, mais qui manquent justement de l'imagination que comme moi-même... il y a des gens qui ne peuvent plus faire avec, qui ne peuvent plus mener une vie avec. Je pense que voilà, donc c'est ça que au moment on dit il faut faire avec, bon voilà, on va se débrouiller. Il faut toujours tenir compte du fait qu'il y a des gens qui ne peuvent plus faire. Voilà.
Pas de fatalisme.
Ben non.
Ok. Merci Ryoko. Et merci pour ce livre. Franchement, je vous encourage à lire cette petite merveille de poésie et de voyage à l'intérieur de ce mot magnifique qu'est la saison, Nagori, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. Merci à vous.
Et merci à toutes les deux de nous avoir livré ces émotions et vos réflexions. Alors, le slogan, donc... La saison, c'est l'émotion. On vous invite à vous emparer de cette phrase et pourquoi pas aller l'écrire un peu plus loin. Il y a un petit atelier slogan. Vous pouvez écrire des choses voilà, qui seront mises en animation ce soir. Donc, emparez-vous de cette phrase.